7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, que s'est-il passé dans la gestion de crise du Covid-19 pour que les masques ne soient que tardivement considérés comme une priorité par les autorités sanitaires? Depuis jeudi, suite à la publication du rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur la gestion de la crise, la responsabilité de Jérôme Salomon, directeur général de la santé, est pointée du doigt. Pourquoi la France n'était-elle pas préparée à affronter la pandémie? Pourquoi ne disposait-elle pas du stock stratégique de masques adéquat? Quel choix aurait dû ou pu être fait et à quel moment? Retour sur la chronologie des prises de décision. Bonjour Alain Milon.
Bonjour.
Vous êtes sénateur Les Républicains du Vaucluse et président de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid-19. Alors, la décision de la mise en place de cette commission d'enquête sénatoriale que vous avez présidée donc a été prise dès le 19 mars 2001. Elle a été mise en place fin juin. Pourquoi, dès le début du confinement, eh bien, vous avez posé la question donc de cette surveillance, de cette commission d'enquête sénatoriale sur la manière dont était gérée cette crise?
Oui, je viens de vous entendre parler de John le Carré. Nous n'avons pas eu le sentiment, quand on a lu les différents articles concernant en particulier Santé publique France et directeur général de la Santé, qu'il y avait une bombe sous le lit. Cependant, c'est vrai que le fiasco des masques montre, de toute évidence, un manque complet d'anticipation lourde, avec évidemment des conséquences importantes sur la santé de nos concitoyens. La pénurie de masques, donc, et la pénurie d'autres matériels, d'ailleurs, parce que les masques font partie d'un ensemble dans la pénurie, resteront le triste symbole d'un état d'impréparation du pays à la suite de décisions qui ont quand même été prises bien avant 2018 et bien avant 2019, hein, puisque les premières décisions prises sur les masques et les premiers rapports pris sur les masques datent quand même de 2010.
Alors, les dates sont extrêmement importantes dans ce cas d'espèce. Alain Milon, l'un des arguments du gouvernement, c'est que l'OMS, au départ, disait que les masques n'étaient pas utiles pour lutter contre la pandémie.
Oui, mais c'est ce qu'a repris d'ailleurs le ministre de la Santé lors de son audition. C'est vrai que l'OMS, là aussi, a été d'une affligeante stérilité dans sa communication, comme d'ailleurs beaucoup d'États. Les masques sont utiles, ils l'ont toujours été, et si on revient par exemple à l'expérience de la grippe H1N1 il y a quelques années en arrière, du temps de Roselyne Bachelot, l'une des directives qui était donnée, c'était port de masque, lavage de mains et distanciation. Ça n'a pas changé depuis. Lorsqu'on est face à un virus, en particulier un virus aérien, port de masque est obligatoire. Port de masque permet justement d'éviter certaines crises importantes et certaines infections importantes.
Mais alors, pensez-vous que les dirigeants de l'OMS aient été incompétents ou alors qu'ils aient, je ne sais pas trop pourquoi, menti?
Je pense pas qu'ils aient menti. Je pense qu'ils n'ont pas pris l'ampleur de la crise, tout comme d'ailleurs la France et comme d'autres pays. On a oublié dans des pays hyper protégés comme les nôtres que des épidémies peuvent exister. Vous avez dit tout à l'heure que j'étais sénateur de Vaucluse. Dans le Vaucluse, on a eu des épidémies importantes. Et je vous rappelle que nous pouvons encore visiter le mur de la peste. Donc, les épidémies, ça existe. Des épidémies, on n'en a pas vu depuis longtemps. Elles reviendront en force. Et les mesures qu'il faut prendre, c'est le masque, la distanciation, le lavage des mains et évidemment la vaccination lorsqu'on aura celle-ci en place.
Bon alors, maintenant justement, parlons masque. Donc ce que l'on a découvert à la faveur notamment de cette commission d'enquête que vous présidez au Sénat, Alain Milon, c'est que la France avait eu des masques, il y avait eu des stocks de masques et puis que l'on avait jeté ces masques, c'est ça?
On a éliminé des masques qui n'étaient plus qui n'étaient plus utilisables parce qu'ils étaient périmés. Et en fait, entre 2011 et 2016, le stock de masques est passé, en particulier le FFP2, est passé de 700 millions à 700 000. Il y a une diminution de près de 100%, à 99%. Et la justification du stock s'appuie sur un avis de l'époque du Haut Conseil de la Santé publique de 2011 sur une doctrine qui a été élaborée à partir de 2013, donc une diminution des masques. Mais l'avis, c'est aux employeurs, aux hôpitaux, de faire le nécessaire pour les masques de leurs employés. Mais l'avis ne disait pas qu'il fallait par ailleurs diminuer les stocks au niveau national.
Est-ce qu'on aurait pu les utiliser quand même, ces masques périmés? Parce que les masques, c'est pas les yaourts. Même les yaourts, d'ailleurs, ça se conserve longtemps.
Ça se conserve longtemps, les yaourts. C'est aussi un truc qu'il faut essayer de faire comprendre à nos concitoyens.
Absolument. Sur les yaourts, nous sommes d'accord. Mais sur les masques, un masque, c'est en papier. Donc là, vraiment, on ne comprend pas trop ce qu'il y a de périmé dans le papier.
C'est l'efficacité de la filtration par rapport au virus qui est remise en cause. Hein. Et puis, d'après ce qui a été dit et d'après ce qu'on a pu voir, certains masques étaient quand même avaient des moisissures. Donc, il y avait probablement un danger à les récupérer, à les utiliser. Le vrai problème, c'est que la disparition de l'EPRUS, qui était un organisme qui était à l'époque chargé de collecter différents médicaments, différents produits pour protéger les populations, l'EPRUS a été, dans les années 2013, supprimé au profit de Santé publique France, avec d'ailleurs l'Institut national de veille sanitaire et l'AMPES. Ces trois organismes étant disparus dans un seul organisme, le contrôle par le Parlement des budgets n'a pas pu être fait comme nous le faisions auparavant. Et donc la diminution progressive de ces masques a été due à des mesures d'économie financière que l'on peut comprendre, mais qui ont été contrôlées par le Parlement en particulier.
Alors, l'une des accusations qui est adressée à Jérôme Salomon est le fait d'avoir fait pression sur le rapport rédigé par Jean-Paul Stahl, professeur émérite d'infectiologie à l'Université de Grenoble. Il préconisait de constituer un stock d'1 milliard de masques et Jérôme Salomon lui aurait demandé de modifier son rapport. A-t-on des preuves de cela ?
C'est dans le rapport de la commission d'enquête au niveau des annexes, en particulier les échanges de mails qui ont eu lieu entre M. Bourdillon, le directeur de Santé publique France, et le directeur général de la Santé. Et c'est vrai qu'il y a eu des demandes faites par le DGS de modification du rapport pour essayer de justifier l'absence d'achat de 5 ou 600 millions de masques. C'est vrai. Monsieur le directeur général de la Santé ne peut pas dire le contraire, mais c'est vrai aussi que c'était un avis, et c'est pas un avis de Santé publique France, mais un avis d'expert. Donc lorsque la DGS se défend en disant que Santé publique France est sous les ordres du ministère de la Santé, c'est faux, puisque c'était pas Santé publique France directement, mais un avis d'expert. Donc il y a eu une intention forte de modifier le rapport d'experts pour justifier une diminution du nombre d'achats des masques.
Mais alors, Alain Milon, vous qui présidez cette commission d'enquête du Sénat, on est entre nous, vous pouvez nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces masques ? Est-ce que le gouvernement, voyant que de toute façon il n'y avait pas assez de masques pour tous les Français, s'est dit que le plus simple c'était de les déclarer inutiles ? Ou bien est-ce que véritablement Jérôme Salomon était convaincu que les masques ne servaient à rien ?
Mais écoutez, ça, c'est pas à nous, les rapporteurs et le président de la commission d'enquête, de juger ce qui s'est fait. Nous constatons. Après, vous savez qu'il y a...
Alors, vous constatez quoi ? Vous constatez qu'il y a eu pression et que donc, ce monsieur savait que...
Nous constatons qu'il y avait un rapport qui préconisait plusieurs centaines de millions de masques et qu'en fait, ce rapport n'a pas été suivi des faits. Voilà ce que nous constatons. Et nous constatons aussi que le directeur général de la Santé a fait des mails pour justifier ses achats à lui et pour demander que le rapport soit modifié en fonction des achats qu'il a fait. C'est tout ce que nous pouvons dire. Nous n'avons pas à juger de la situation. Les jugements seront faits par ailleurs dans le cadre d'actions qui sont actuellement mises en place en justice.
C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des gens poursuivis pour négligence, pour...
Ça n'est pas à nous de dire ce qui peut se passer par la suite. C'est pas notre rôle. Nous sommes des politiques, nous ne sommes pas des juges. Nous avons fait des constats importants. Il y a d'autres constats. Il n'y a pas que les masques dans cette affaire qui peuvent être pris. Regardez par exemple la cellule de crise interministérielle ne s'est réunie que le 17 mars, alors que la crise a commencé en janvier. Il y a eu donc un défaut de communication. Il y a eu une stratégie de communication qui s'est maintenue très longtemps dans ce sens-là, alors qu'elle aurait pu changer en cours de temps. Et c'est ce que nous avons constaté. Nous n'avons pas à juger. Personnellement,
c'est bien compris.
Mais nous n'avons pas à juger.
Merci beaucoup. Vous êtes président de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid-19, 7h23 sur France Culture.